Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. « Au dire des gens, qui suis-je ?» Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un des prophètes. » Et lui les interrogeait, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ?» Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. »
Acclamons la parole de Dieu.
Gloire à toi, Seigneur.
Au dire des gens, qui suis-je ? Vous voyez, quand Jésus pose cette question à ses apôtres, c'est pas parce qu'il est friand de potins, de ragots, ou des bruits qui courent par-ci par-là, vous voyez. Il connaît le cœur des hommes, il connaît le cœur des gens, mieux qu'eux-mêmes d'ailleurs, il sait mieux que nous-mêmes ce qu'il y a dans notre cœur, dans nos pensées, voyez. Alors il a un but précis, quand il dit à ses apôtres, vous voyez, ils ne sont pas toute la journée, toute la nuit, tous les jours avec Jésus sans doute, ils vont aussi un peu dans les villages, ils se promènent, ils entendent, ils sont au contact des gens, des populations, et la réputation de Jésus le précède de très loin, vous voyez, donc on entend parler de lui un peu partout. Et les apôtres ont des oreilles qui traînent, voyez, et ils écoutent aussi ce qui se passe, ce qui se dit, et Jésus les questionne. Alors, les gens disent qu'il est Jean-Baptiste, que Hérode avait fait décapiter, Jean-Baptiste qui est revenu, qui est ressuscité. D'autres disent c'est Élie, ce prophète qui, comme il est écrit, doit revenir. Alors que Jésus lui-même précise que Jean-Baptiste était ce Élie qui est revenu, voyez, avec la puissance de l'esprit d'Élie pour rétablir toute chose et pour préparer le chemin du Messie, l'agneau de Dieu. D'autres disent, c'est un des prophètes, vous voyez, c'est encore plus indéterminé. Qu'est-ce qu'on entendrait aujourd'hui si on allait dans la rue, là, et qu'on allait écouter un petit peu ce qui se dit sur Jésus? Alors, ça fait un peu plus de 2000 ans que c'est un homme de l'histoire. Certains diront, c'est un grand homme de l'histoire. Et on ne peut pas nier historiquement que Jésus ait existé. Il y a plus de preuves historiques de l'existence de Jésus que de l'existence de Jules César. Personne ne remet en question l'existence de Jules César. Alors que Jésus soit Dieu, ça c'est une autre affaire, c'est une affaire de foi. Oui. Mais donc c'est un grand homme de l'histoire, c'est un sage, un des grands sages de l'humanité. Il a prêché la paix, un homme de paix, d'amour, de miséricorde. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est aussi un fondateur d'une religion, comme il y en a d'autres, hein, fondateur du christianisme, ou un guérisseur, un thaumaturge. C'est vrai qu'il a fait des guérisons, des miracles, c'est ce qu'on lui prête en tout cas. Ça, c'est au mieux, mais au pire, qu'est-ce qu'on dirait de Jésus aujourd'hui? En fait, pas tellement autre chose que ce qu'on disait de lui à l'époque. Voyez, c'est un imposteur, un fou, un possédé, un usurpateur, voyez. Jésus ensuite pose la question à ses apôtres, « Pour vous, qui suis-je ?» C'est pareil, il sait ce qu'il y a dans leur cœur. Mais il veut entendre, voyez, il veut qu'il se positionne. Pour vous, qui suis-je ? Chacun doit se poser cette question. Chaque disciple. Pour vous, pour toi personnellement, qui suis-je ? Pierre répond sans doute un peu au nom de tous. Tu es le Christ, le Messie attendu par Israël. Alors de là à confesser encore pleinement que Jésus est Dieu, Fils de Dieu, voyez, encore il y aura un pas à faire pour Pierre et pour les apôtres. Voyez, le Messie attendu par Israël, c'est un homme choisi par Dieu, élu de Dieu, avec une mission spéciale, consacrée par Dieu, mais c'est un homme. Et il faudra tout un chemin dans la tête des disciples et puis des foules pour comprendre que ce Messie est Dieu fait homme. D'accord ? Donc Jésus, Pierre répond, c'est une belle confession de foi, tu es le Christ. Dans l'évangile parallèle chez saint Matthieu, tu es le Fils du Dieu vivant. Alors là, déjà, effectivement, il y a quelque chose qui nous donne... voyez, un acte de foi plus précis dans la divinité du Christ. Pierre se positionne en premier, mais chacun est invité à se positionner. Et tout de suite après cette première confession de foi de Pierre, Jésus fait sa première annonce de la Passion. Il commença à leur expliquer qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, soit mis à mort, soit rejeté, soit écarté, soit crucifié. Et puis qu'il ressuscite le troisième jour. Pourquoi la passion ? Pourquoi toute cette souffrance ? Pourquoi il fallait que le Fils de l'homme souffre ? Vous voyez, c'est une question qu'il faut qu'on se pose régulièrement, pas juste le Vendredi Saint. Bien sûr, pendant le Triduum Pascal, la Semaine Sainte, c'est le moment de l'année par excellence où on contemple ce mystère de la croix, et d'une manière avec une intensité très forte. Mais c'est pas juste le Vendredi Saint, puisque c'est là le mystère de notre salut. C'est ce qu'on célèbre dans chaque Eucharistie. Vous voyez, le don de Jésus sur la croix. Pourquoi il fallait que Jésus souffre ? Cette souffrance, déjà, elle était annoncée par les prophètes. La première lecture de ce jour du livre d'Isaïe, on a coutume de l'entendre, enfin, on a l'habitude de l'entendre pendant le carême. Les chants du serviteur souffrant, différentes annonces de la passion dans la bouche des prophètes, voyez ? Donc c'était annoncé dans les Écritures, mais pourquoi il fallait ? Pourquoi il y a cet engrenage du péché, alors on remonte depuis le péché originel qui est ce manque de foi, d'amour, de confiance en Dieu et qui se traduit ensuite par des manques d'amour et de respect envers les hommes. Et voyez cet engrenage du péché originel qui se répand dans le cœur par des actes, par des péchés personnels, voyez, qui arrivent jusqu'au fratricide, hein, dès la génération suivante, ensuite en dessous de Adam et Ève, dès leurs enfants. Et puis, dans toute l'histoire de l'humanité, et jusqu'à aujourd'hui, nous le savons que trop bien, malheureusement, tant de guerres, tant de malheurs, tant de violences, tant de haines, de tout temps, dans tout lieu, toutes les cultures, toutes les époques, toutes les circonstances, encore aujourd'hui. Alors, il n'y a pas que ça dans l'humanité, il y a aussi de très très belles choses, mais voyez, c'est quand même présent, très présent, la souffrance et la haine entre les hommes. Pourquoi il fallait que le Christ souffre tout cela ? Parce qu'en fait, la plus grande preuve d'amour que Dieu puisse nous donner, c'est de donner sa vie pour nous. Et concrètement, vous voyez, ce n'est pas juste de claquer des doigts et puis d'opérer le salut, de racheter l'homme, lui pardonner son péché, Dieu du ciel, vous voyez, sans descendre, sans se mouiller, en claquant des doigts. Bon, voilà, je vous pardonne, c'est fait. Dieu est tout-puissant, il peut faire cela. Mais vous voyez, pour nous montrer qu'il est proche de nous, qu'il se fait proche et jusqu'à prendre sur nous nos souffrances concrètement, il se fait homme. Alors là, nous comprenons pourquoi Jésus doit souffrir. Jésus doit souffrir la passion, il doit mourir sur la croix, parce que c'est la preuve suprême de l'amour de Dieu pour tous les hommes, qui prend soin des hommes. L'amour de Dieu qui n'oublie pas les hommes dans leurs péchés, dans leur misère, ce qui engendre les violences, les haines, les guerres et tout ce qu'on veut. Et Jésus vient prendre sur lui tout cela, sur ses épaules. Et cet amour, il est incommensurable. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Si cela est vrai pour les hommes, ô combien plus pour Dieu lui-même, éternel, absolu et impassible, qui se fait homme et qui accepte de souffrir et de mourir sur la croix. Cette première annonce de la Passion est suivie par le premier, entre guillemets, reniement de Pierre. Non cela, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et Pierre lui fait de vifs reproches. Il ne veut pas suivre un Messie qui aurait dû être pour lui un Messie glorieux, triomphant, vainqueur, qui va repousser l'ennemi romain. Il ne veut pas suivre un Messie qui va être souffrant, qui va souffrir concrètement et qui va mourir. Ce n'est pas très enthousiasmant pour lui. On peut le comprendre humainement parlant. Oui. Il ne peut pas s'identifier à cela. Et pourtant, alors qu'il a fait une belle profession de foi, inspiré par le Père, inspiré par Dieu, tu es le Christ, ici, c'est l'esprit du monde, c'est l'esprit du mauvais qui l'inspire. Il dit non, cela ne t'arrivera pas. Pourquoi Jésus lui dit « passe derrière moi Satan » C'est parce que c'est le plan de Satan que de détourner Jésus de la croix. Il ne peut pas le faire. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité, et il a vaincu Satan définitivement ce faisant. Mais voyez, dans cette réaction toute humaine de Pierre, qu'on comprend bien, eh bien, il y a quelque part, voyez, une contre-foi, voyez, quelque chose d'un peu démoniaque. Voyez. C'est-à-dire, il veut nous détourner de la croix. Passe derrière moi, Satan. Il faut que cela arrive, parce que je dois montrer au monde la puissance de mon amour, la puissance de ma résurrection et le fait que je sois venu pour sauver les hommes de leurs péchés en leur prouvant cet amour par le sacrifice de la croix précisément. Et Jésus ajoute, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis ça, moi je me dis, c'est pas un programme très facile, quoi. C'est pas très enthousiasmant, quoi. On préférait se dire, bon, suivre Jésus, moi je préfère, bon voilà, oui, c'est le chemin, la vérité, la vie, il prêche la miséricorde, l'amour, il est la lumière du monde. Bon, on va suivre Jésus, c'est plus agréable de le suivre, voyez, sur ses belles paraboles, sur ses belles paroles. Mais quand on l'entend dire qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, là, vous voyez, c'est moins encourageant. Et pourquoi ? Parce que spontanément, vous voyez, notre nature humaine, précisément marquée par le péché, l'esprit du monde nous tire vers le bas. J'ai envie de dire, l'esprit du démon, vous voyez, nous détourne de la croix, comme Saint-Pierre. Comme Saint-Pierre. Et on n'a pas envie spontanément, naturellement, d'aller au calvaire avec Jésus. C'est normal, humainement parlant, ça se comprend. Jésus lui-même ne voulait pas. Père, éloigne de moi cette coupe. Mais il fallait que Jésus passe par là, et nous avec lui, pas sans lui, avec lui. Donc n'ayons pas peur du mystère de la croix, n'ayons pas peur de prendre notre croix, de renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire au fond, renoncer à notre orgueil, notre égoïsme, à notre péché, pour que Jésus lui-même nous libère. Il est venu pour ça, ici et maintenant. Jésus nous pose cette question, pour toi, qui suis-je ? Si vraiment il est Dieu, Fils de Dieu, qu'est-ce que concrètement ça change dans ma vie, ici et maintenant ? Chaque seconde de mon existence, vous voyez, doit se poser cette question. Qu'est-ce que ça change que Jésus de Nazareth, cet homme de l'histoire, ce grand homme, ce sage, soit Dieu, Fils de Dieu, et soit passé par la croix pour me sauver ? Qu'est-ce que ça change pour moi 2000 ans après, ici, maintenant, et tous les jours, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis ? Eh bien, ça change tout. Et Saint Jacques nous le rappelle, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, elle est morte. Donc il ne s'agit pas juste de faire une belle confession de foi. Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, etc. Le credo que nous professons tous les dimanches, il faut le faire. Avec un cœur profond, avec un amour brûlant pour le Seigneur. Il faut aussi et surtout mettre en œuvre, mettre en pratique cette foi. Voyez, comme nous invite cette deuxième lecture, l'épître de Jacques. Nous demandons la grâce au Christ Jésus de réaliser qu'il est Dieu, Fils de Dieu, pour moi, ici, maintenant, et dans toute ma journée, tous les jours de la semaine, dans toutes mes activités, mes relations, mes rencontres. Jésus est Dieu, il me sauve, il est venu pour me sauver, il a souffert sur la croix et ça change tout. Comment est-ce que maintenant je dois agir ? Comment est-ce que maintenant je peux aimer mon prochain ? Comment est-ce que maintenant ma foi qu'il me faut déployer et approfondir, je la mets en pratique, je la mets en œuvre ? Ici, avec telle personne, dans telle rencontre, dans mon travail, dans mes activités, dans ma famille, pour que la lettre de l'Évangile ne soit pas une lettre morte, pour qu'elle vive en moi, que je la mette en pratique. Seul l'Esprit Saint nous y aidera, invoquons-le.